Radio Panique.
Pandémique.
Rassure l'auditeur.
Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
Radio Pandémique tous ensemble.
On va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie, et on va voir ses conséquences sur l'humanité.
Comment les gouvernements pourraient réagir, comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
C'est Radio Pandémique, avec un K.
Ah oui, Radio Pandémique,
ouais.
J'aime bien.
Consultez gratuitement toutes les maisons de retraite médicalisées.
Grève sauvage dans les dépôts tech Liège-Verviers.
Je crois que ça, c'est la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'en une telle période de crise, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux élargir l'assise démocratique plutôt que de la restreindre ?
La NVA perd des plumes au Parlement flamand.
Et c'est clair que ces pouvoirs spéciaux, en donnant l'exclusivité du pouvoir au gouvernement, va évidemment enlever une partie d'un débat essentiel qu'on devrait pouvoir avoir.
Manque de transparence concernant le salaire du patron de la RTBF.
Et ne me dites pas, Raoul, t'es en train de rêver, il y aura évidemment rien d'antisocial. Quand on voit déjà qu'un des premiers arrêtés ministériels était la décision de faire passer les horaires des magasins de 7 à 22 heures.
Si les écoles ne rouvrent pas le 20 avril, les examens seront annulés.
Ça ne va pas, je veux dire, les caissières et les travailleurs des magasins sont épuisés.
Des projets pilotes pour lutter contre le chômage.
Réquisition dans l'administration des chômeurs de longue durée.
Le gouvernement Macron vient d'avoir les pouvoirs spéciaux. 5 heures plus tard que décide le gouvernement Macron, je vous prends quelques mesures prises par le gouvernement Macron. Possibilité d'augmenter la durée hebdomadaire de travail à 60 heures, possibilité de réduire le repos compensateur à 9 heures, possibilité de travailler le dimanche et possibilité de travailler 7 jours sur 7.
Soutien aux agriculteurs. Les protestations du secteur culturel continuent.
Donc là, je pense quand même, chers collègues, qu'on a un problème avec ces pouvoirs spéciaux. Alors on va me dire, oui, mais c'est pas vrai, la définition est très précise. Chers collègues, je sais pas, est-ce qu'on a lu le même texte ? Est-ce que vous avez lu le même texte que moi ?
La vie difficile des infirmières à domicile.
Lettre ouverte aux parents fatigués. Les festivals d'été tremblent face au risque d'annulation.
C'est la flexibilité. Qui peut me garantir ici, dans cette chambre, qu'on ne va pas voter une flexibilité des horaires de travail ? Qui peut me garantir, enfin voter, excusez-moi, décider, parce qu'on ne votera plus. Qui peut me garantir qu'il n'y aura aucun arrêté royal qui va modifier ou diminuer les congés payés ?
La charge de travail augmente, mais pas la sécurité. Bruxelles Propreté dépose un préavis de grève.
Les aides aux banques, qui peut me garantir qu'il y aura des conditions aux aides aux banques ? Ou est-ce qu'on va faire comme en 2008 ?
Cheminots inquiets.
Hein, donc c'est là-dessus qu'on détermine le mieux. Dans l'article 5, paragraphe 1, je prends le point 3. Apporter un soutien direct ou indirect, prendre des mesures protectrices pour les secteurs financiers, économiques, marchands et non-marchands, entreprises et ménages qui sont touchés en vue de limiter les conséquences de la pandémie. Vous y menez le mandat ? Vous avez le mandat pour donner des milliards aux banques. Le point 4, garantir la continuité de l'économie, la stabilité financière du pays, le fonctionnement du marché, ainsi que de protéger le consommateur. Protéger le fonctionnement du marché. Attendez, aujourd'hui, c'est le fameux marché capitaliste.
Mons, les portes du Carrefour sont restées fermées ce lundi.
Qui fait que les masques de protection coûtent 20 fois plus cher qu'avant la crise. Parce que ça, c'est un des grands mécanismes du capitalisme triomphant. C'est que plus on a besoin de quelque chose, plus on paye.
Un jeune conducteur perd la vie dans un accident.
Donc aujourd'hui, on a une situation où il y a des acteurs sur le marché qui spéculent, qui se font la blinde de fric parce qu'il y a une demande mondiale énorme de masques, et vous me demandez ici de voter un mandat pour dire qu'on doit continuer à accepter que le marché fonctionne comme ça.
Arco dément avoir écrit les arrêtés royaux et porte plainte.
Monsieur collègue, la Ligue avant Menserecht, la Ligue des droits de l'homme, nous a dit qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux aujourd'hui pour la protection de la vie privée. Différents professeurs d'université. Je comprends pas. Je pense que réellement, on aurait pu prendre plein de mesures ici au sein de ce Parlement, et évidemment à toute vitesse.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence.
De nos combats. Parce que j'étais quand même... Enfin, moi, j'hallucine depuis le début. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de nana. Il n'y a que... tous les textes qui circulent, c'est que des mecs et que des références masculines. Et c'est toujours des choses hyper pensées, organisation de l'Occident, etc., etc. Il n'y a plus aucune ouverture sur l'extérieur. C'est j'ai l'impression qu'on a oublié les cinq dernières années où on vient de se... Tu vois, on a essayé d'amener quelques avancées sur ces questions-là. D'un coup, c'est fini. Donc, 31 mars 2020. La précision des dates est importante pendant le confinement. On a dit partout à la télé et dans la presse que l'année qui vient de passer était féministe. Mais soudain, tout ceci est oublié. Nous ne voyons plus à l'écran que docteurs, militaires et politiques, hommes blancs qui reprennent l'avant-scène pour nous expliquer comment être solidaires de la nation, en évitant la propagation du virus, d'aplanir la courbe tous ensemble en restant chez soi. Nous avons maintenant bien compris que ce discours ne s'adressait qu'à la part privilégiée de la population. Les autres, soit n'ont pas de chez eux, ou un chez elles dangereux, soit doivent continuer à soigner les personnes et servir la société. Soit ils n'ont pas les moyens ou la protection sociale qui leur permettent de s'arrêter. On ne les voit pas, puisque cela fait longtemps déjà qu'ils n'ont d'autre choix que le ghetto ou l'incarcération. Le capitalisme est dévoilé, disent certains. Il ne survivra pas à la crise, nous organiserons un autre monde. Mais les derniers sursauts de la bête sont le plus violents, et nous voyons se mettre en place un état policier sans précédent historique. Une séparation complète des corps, et un racisme social qui confine à l'élimination directe d'une grande part de la société, sans passer par la casse-prison. Il semble désormais que cette situation soit toutefois dénoncée dans quelques médias qui s'apitoient sur le sort des plus démunis ou sanctifient nos sauveurs du secteur de la santé. Soudainement, les caissières, les femmes de ménage et les infirmières sont devenues des héroïnes. Malgré tout, les quelques espaces de parole qui leur sont laissés servent surtout à les victimiser sans pour autant leur offrir la possibilité de formuler une opinion, d'émettre une analyse. Elles n'ont de toutes les façons pas le temps, puisqu'elles doivent travailler. Et encore moins, un accès aux décisions. Par ailleurs, les revendications se limitent au strict minimum, sécurité minimale dans le travail et reconnaissance financière. Les activistes, quant à eux, nous parlent de l'organisation du contrôle de l'État, de Kang Guillaume, Foucault et Gors, ou des non-humains de la Tour. Ils ne se souviennent plus de la pensée de Judith Butler sur le contrôle des corps, des analyses intersectionnelles de Françoise Vergès, des textes libérateurs de Lucie Rigaraille, de Mona Chollet, ou des luttes séculaires des sages-femmes pour avoir le droit d'exercer, ou encore des pratiques queer et trans qui refusent intimement le contrôle des corps. Partout, un point commun. Nous tombons toutes d'accord sur le fait que celles et ceux qui soignent font ce travail parce qu'elles sont dévouées et que la société a besoin d'ils ou elles. Nous les remercions, reconnaissons leur dévouement, les héroïsons. Loin de nous, l'idée qu'ils ou elles pourraient arrêter, comme ça s'est fait en Angleterre parce que des femmes de ménage d'hôpitaux n'ont pas été payées à temps, n'ont pas été payées tout court. Ou même simplement qu'ils ou elles feraient ce travail parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Des enfants à nourrir, des patrons qui pourraient les licencier. De par son hypocrisie, ne permet en aucune façon de remettre en question le système existant et d'avancer vers une autre distribution des pratiques de soins qui en ferait une valeur fondamentale de l'organisation sociale. Les pratiques de soins étant au cœur de l'organisation de la communauté, un espace partagé où il serait bon être et où chacun trouverait sa place. Prendre soin des autres est le métier le plus honorable d'une grande valeur à tout point de vue. Mais ne serait-il pas temps de formuler la situation autrement vers une société qui nous permettrait de prendre soin les uns des autres, où l'organisation des systèmes de soins et de santé ne serait plus dévolue aux seuls décideurs en blouse blanche et en costume cravate qui nous ont mis dans une situation inacceptable au point où les hackerspaces s'organisent pour produire le matériel dont les hôpitaux auraient eu besoin il y a un mois. Moi, je pense que je peux arrêter là parce que c'est peut-être un peu long. Ouais. C'est vrai? Parce que là, je suis à la moitié. Je peux sauter. Je peux passer à la fin. Je peux laisser le milieu parce que le milieu rappelle les choses. Ouais, ça vient un peu brutalement. Ça vient un peu brutalement, mais moi, je trouve ça hallucinant que... Enfin, c'est... Ça, je voulais faire une entrevue pour Pandémique là-dessus. Y a moyen de produire des respirateurs et différents des visières, etc. en DIY, quoi. Et tous les Hackerspace et les Fab Labs s'organisent pour fournir aux hôpitaux des respirateurs. Mais tu te dis, mais c'est juste ahurissant. Enfin, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça à fabriquer. Pourquoi est-ce que c'est rendu encore une fois à la société civile, quoi. Toutes les petites couturières qui font des masques sur leur table de cuisine. Enfin, c'est là, mais tu dis, mais c'est pas possible quand on est au Moyen-Âge, quoi. Achille Mbembe, dans un très récent livre intitulé Brutalisme, oppose à notre prise de conscience occidentale l'expérience vécue par bien des peuples, dit-il, qui ont enduré l'urgence avant nous. Il nous rappelle que le continent africain est le laboratoire des mutations d'ordre planétaire où se pratiquent depuis le commerce triangulaire des opérations de déliaison des corps qui débouchent sur des états d'exception. Ce que nous vivons, dit-il, n'est que le processus d'africanisation du monde. Il ne fait qu'étendre aux occidentaux ce que d'autres vivent en conséquence du système existant. Le vivant est en proie à un processus de carbonisation. Mbembe propose au continent africain et aux autres d'aller puiser dans les richesses du système relationnel, dans la force de la matérialisation spirituelle du monde, dans le désert brûlé, laissé par le système en place, il propose de placer un acte vibratoire qui enjambe et dépasse le donné et ses contraintes. Il pose la question de savoir comment faire croître un courant de pensée qui tombe sur un sol désolé, et s'efforce de capter les rayons de lumière pour exister en milieu hostile. Comment doit-il développer ses racines? Où doit-il poser ses fleurs visibles ou ses liens cachés? Ces questions sont celles de nos mouvements de résistance. Il ne s'agit pas aujourd'hui plus qu'hier de demander le retour à la normale d'un système destructeur. Il s'agit bien de vivre ailleurs et avec d'autres, et de construire une autre réalité. Pour cela, nous devons envisager une situation par-delà les discours scientifiques centrés sur un Occident en panique, et trouver les ressources millénaires autour desquelles se construisent nos relations et nos spiritualités pour permettre conjointement avec le reste du monde la fin de la manufacture des vies superflues mise en place par le capitalisme. Donc Mbembe a été publié en février 2020. Le livre s'appelle Brutalisme, il a été publié à la découverte. Voilà. Et si vous cherchez le texte, il se trouve sur le forum de Petite Singularité dans la section Prendre soin. Donc cs.zoetical.org comme petite singularité, prendre soin. Où vous trouverez aussi toutes sortes d'autres ressources.
Pour rappeler, appuyez sur le carré. Message suivant su à 0h07.
C'est l'extraordinaire aventure survenue à un étudiant parisien, Monsieur Jean-François Zoubit, militant révolutionnaire en mai 1968. Celui-ci est réapparu à la surface pour la première fois depuis les tragiques événements que l'on sait. Depuis ces journées sanglantes qui assombrirent notre époque, la recouvrant sournoisement d'un blafard manteau taillé dans l'or noir du drapeau de l'anarchie, M. Jean-François Zoubit s'était caché dans les égouts de la capitale sous une sortie oubliée qu'il avait dissimulée sous une couche de pavé, depuis recouvert de bitume. Craignant le pire à la suite des dégonflages des partis de gauche, Jean-François Zoubit, âgé de 24 ans à l'époque, n'avait jusqu'ici osé regagner l'air libre. Il a pu survivre en se nourrissant des déchets flottant à la surface des flots encombrés des égouts parisiens. Ça avait le même goût qu'au Souma d'à côté, a-t-il déclaré après s'être enquis de qui avait finalement gagné la Coupe du Monde 68, apprenant que c'était le général Charles de Gaulle. Jean-François Zoubit demandait l'asile de l'autre côté du rideau de fer. Notons que c'est seulement en se souvenant qu'il avait oublié de fermer le gaz en sortant de chez lui ce jour-là que Jean-François Zoubit s'est décidé à remonter dans son appartement rue Édouard Peyron. Heureusement, le gaz avait été coupé entre-temps par son voisin de palier, un gardien de la paix, M. Léon Marcadet, qui sera cité à l'ordre de la nation.
Message suivant de... Reçu hier à 23h56.
Oui, bonjour. Ce serait pour faire passer un petit message pour la personne qui habite mon cœur. Et en fait, c'est pour lui dire que je pense fort à elle et que cette personne me manque fort et on se reverra quand toute cette merde sera finie, j'espère. Et voilà, merci et au revoir, salut.
Message suivant. De.
Bon, bah, vu que l'appel précédent ne m'a coûté que 40 centimes, je te rappelle pour te demander comment ça va, la créativité, parce que c'est un peu le mot d'ordre, hein, créativité, rester créatif au niveau de ce qu'on va faire après, de la solidarité, de ce qu'on est capable en fait d'offrir à la Terre et à la société maintenant. Oui, la société, qu'est-ce qu'on va faire après, quoi. Parce que là, en ce moment, à part essayer de gagner une cote de popularité un peu plus élevée sur les réseaux sociaux, qui sont finalement beaucoup plus anxiogènes, même si plein d'amour que tout le reste, je me dis que j'allais te rappeler pour parler de tout ça. Mais tu n'es pas là. Et au fait, on a trouvé des feuilles, hein. Donc, on va continuer à fumer. Voilà, des bisous de la Chabossière, à l'ouest de Nantes. Enfin, l'ouest, vraiment, l'ouest un peu collé quand même. Hein. On n'est pas loin de Nantes, quoi.
Victoire pour la santé est une initiative des personnes habitant rue de la Victoire à Saint-Gilles pour la Journée mondiale de la santé qui a lieu aujourd'hui. Cette initiative a été imaginée pour répondre à la campagne « Notre santé n'est pas à vendre » du collectif La Santé en lutte et du réseau européen Santé, European Health Network. Par cette action, nous souhaitons apporter notre soutien au personnel de santé et devenir le porte-voix de leurs revendications. La libéralisation du secteur a engendré une baisse de la qualité des soins et il n'est plus acceptable de demander aux services publics de faire plus avec moins pour augmenter la rentabilité au profit des intérêts privés. Pour cette journée, nous vous demandons de participer à une action collective. Entonnez avec nous le chant des remèdes ce soir à 20h depuis votre fenêtre. Le chant des remèdes est une chanson qui a été écrite spécialement pour cette occasion afin de soutenir le personnel de santé pendant la crise du Covid-19. Elle a été commandée par l'association Loops et composée par Myriam Pruvot. Nous déclarons que la rue de la Victoire devient dès aujourd'hui un foyer de propagation de solidarité et invitons toutes les personnes qui le souhaitent à déployer leur voix. Rejoignez-nous sur l'événement Facebook Victoire pour la Santé. Vous y trouverez les paroles ainsi qu'un karaoké de la chanson disponible sur YouTube. Vous pouvez aussi nous écrire à victoirepourlasante@protonmail.com. Retrouvons-nous donc ce soir à 20h pour chanter à l'unisson depuis nos fenêtres. N'hésitez pas à vous filmer et à diffuser sur les réseaux sociaux avec le hashtag Health4All ou Santé pour tous. Vous pouvez aussi nous envoyer la vidéo. Nous transmettrons cet encouragement collectif au personnel de santé pour leur réchauffer le cœur.
Ni soldats, ni guerriers, ni héros, ni tranchées. Mes soignantes, infirmières, médecins et brancardiers. Ni soldats, ni guerriers, ni héros, ni tranchées. Mes soignantes, infirmières, médecins et brancardiers. Feu les corps exposés aux futiles dépenses. Saisissez l'industrie suspendait la finance. Ni profit, ni projet, ni produit, ni objet. Mes soins, crédit, budget, protection et sujet. Ni profit, ni projet, ni produit, ni objet. Mes soins, crédit, budget, protection et sujet. Feu les corps exténués aux nuisibles puissances. Dégageons les courtiers, exigeons l'abondance. Ni dépit, ni sentence, ni servile allégeance. Mais répit, bienveillance, bonne fortune et patience. Ni dépit, ni sentence, ni servile allégeance. Mais répit, bienveillance, bonne fortune et patience. Le remède est chanté, chérissons nos alliances. Protégeons nos aînés, cultivons notre chance. De voir ainsi changer et régime et croyances. Que vivons célébrés, que santé soit l'urgence. Le bail est terminé, clôturons ces démences. Colère est confinée, préparons nos vengeances. Ni soldats, ni guerriers, ni héros, ni tranchées. Mes soignantes, infirmières, chercheuses et salariés. Ni soldats, ni guerriers, ni héros, ni tranchées. Mes soignantes, infirmières, chercheuses et salariés. Le poison est contré, le remède s'impatiente. Et cette formule scandée fait notre joie puissante. Les salariés de la santé, du soin sont nos immunités. De l'oseille et du blé pour tous les salariés de la santé, du soin sont nos immunités. De l'oseille et du blé pour tous les salariés de la santé, du soin sont nos immunités. De l'oseille et du blé pour tous les salariés de la santé, du soin sont nos immunités.
Message suivant de
Len.
Reçu hier à 22h51.
J'ai plus de feuilles là. Ah non, ça c'est que des paquets vides. C'est que des paquets vides. Non, on a plus de feuilles. Ah, mais je te l'ai dit tout à l'heure, on a plus de feuilles. Ouais, mais est-ce qu'on en a caché quelque part? Oui, Laure, cool. Eh ben, en fait, ça va, mon appel m'a coûté qu'un euro 60 et j'ai encore de la batterie. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, tu vas trier, hein, dans tout ça, parce qu'on a commencé à prendre une feuille en disant, ouais, qu'est-ce qu'on va dire à la radio, tout ça. On a essayé de monter un truc un peu théâtral. Finalement, bon, tout est vrai, hein, tout est vrai. Le stomato, les grattements anneaux et le manque de clope, hein. Ah oui, on s'est pas vraiment pris une amende parce qu'on avait acheté des serviettes hygiéniques, mais bon, c'était juste pour parler d'un fait d'actualité. Tu trieras et puis à bientôt, voisine.
Message sauvegardé, 30 jours. Message suivant. Reçu hier à 22h45.
Ouais, Pétrolette, je t'appelle parce que je voulais savoir si t'avais pas un peu de tabac à dépanner. Parce que là, on est en train de d'ouvrir tous nos fonds de standard. On galère, vraiment on galère. On n'a plus de fonds de standard. Et on a ouvert une bouteille de tabac, non, une bouteille d'alcool. Et là, ma frangine, elle me dit, ouais, putain, mais on va déconner là. On n'a plus de clopes. Et je dis, non, plus de clopes et tout. Et vu qu'on est voisines, je me demandais si tu pouvais pas me fait qu'on se retrouve quelque part, t'inquiète, on a bien observé dans le quartier où sont les flics, on a bien regardé où est-ce qu'il y avait de la lumière ou pas de lumière, on peut essayer de se retrouver dans un coin où il y a personne, quoi, où tu peux juste me filer un petit fond de tabac, histoire qu'on finisse notre bouteille de vin. Quoi ?
On est à la Chaboutière, on est à côté de Nantes.
Ah putain, merde. Oh merde. Ah ouais, non, en fait, non. Ah ouais, non, mais toi, t'es à Bruxelles, mais ouais, mais tu parce que tu pour moi tu es vraiment ma voisine, donc je me suis dit tiens, tu peux me dépanner du tabac, mais en fait non, je suis à côté de Nantes là. Je suis à l'ouest de Nantes. Bah en fait parce que du coup finalement tous les jours je me lève à 15h30, minimum 15h30 parce que on se couche à pas d'heure. Je suis avec ma sœur, hein. Quand je dis on, c'est un pronom stupide qui définit celui que nous employons. Et là 15h30 tous les jours, donc du coup pour aller au bureau de tabac, donc on va au bureau de tabac, le bureau de tabac est déjà fermé, hein. D'ailleurs on leur a proposé des masques, ils nous ont pris pour des connes. Et ah ouais, d'accord, ok, non, ok, ah ouais, non, bah t'es pas ma voisine. Bon, non, on va devoir finir vraiment le fond du standard, quoi.
Un appel aux cigarettes du côté de Coron.
Un appel aux cigarettes, ouais, bah du coup, voilà, s'il y a quelqu'un qui a des clopes à côté de Nantes, voilà, voilà, et sinon, on cherche un stomatologue qui exercerait pour arracher des dents. Là, arracher ça maintenant, parce que après deux traitements antibiotiques, donc pendant le confinement, foiré, on cherche aussi des trucs et astuces contre les grattements anaux, parce qu'évidemment toute la macrobiote après les antibiotiques, microbiote, enfin toute la biote, quoi.
La biote est morte, batterie faible, j'ai plus de batterie, ça va s'éteindre,
ouais ça va encore. Bah toute notre macrobiote est morte, hein. Enfin pas la mienne, mais on est un pronom stupide qui définit celui qui emploie celle qui est à côté. Et est-ce que vous avez des dentistes à côté? Voilà, sinon on avait d'autres
pour les mycoses vaginales.
Voilà, des astuces pour les mycoses vaginales, enfin contre les mycoses vaginales. Voilà, parce qu'il y a des on a chopé des yaourts bio Super U l'autre jour et on s'est fait arrêter et on nous a clairement dit que c'était pas nécessaire et on a dit bah si parce qu'on a des mycoses et ils ont dit non c'est pas nécessaire et en fait ils ont dit c'est pas nécessaire parce que vous avez aussi acheté des serviettes hygiéniques et que c'est pas nécessaire. C'est pas des premières nécessités. Voilà, bon, c'était peut-être parce qu'on avait aussi pas oublié d'acheter de la bière cette fois-ci. Et t'as d'autres revendications, Zane?
Ben, on a déjà les mycoses vaginales,
les stomatos,
un petit peu de cigarettes.
Mycoses vaginales, stomatos et des cigarettes. Voilà.
Et les grattements anneaux.
Et les grattements anneaux. Si vous avez des astuces, on est pour, quoi. Parce que, en fait, on a une connexion internet qui est très mauvaise. D'ailleurs, je suis en train de nouveau avoir un flash en me disant non, mais je suis en France. J'appelle sur un numéro belge. Cet appel me coûte 30 centimes la minute. Donc, je pense que, au vu de la discussion que j'ai eue avec mon coloc l'autre jour, donc mon coloc avec qui je paye un loyer tous les mois, qui a duré pas très longtemps, hein, mais ça m'a coûté 8 euros sur le crédit que j'ai acheté. Je pense que cet appel va très vite me coûter plus cher que ça. Et tu veux qu'on chante un truc, Zazou? Ah, j'ai mon téléphone qui me dit que j'ai plus de batterie et plus de crédit.
Message suivant. Message suivant, reçu hier à 22h37.
Ah,
Message suivant.
Merci Jean-Pierre pour ce témoignage des plus clairs et des plus éclairants.
Salut Radio Pandémique, moi c'est Anne-Sophie Moreau. Je suis rédac-chef d'un média qui s'appelle Philonomiste et qui traite du monde du travail, de l'entreprise et de l'économie, bref, de sujets sérieux qu'on tente d'éclairer avec l'aide de la philosophie. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour ce site et qui est un peu particulier car j'y parle du virus qui m'a mis la fièvre pendant des heures. Je veux parler évidemment du Covid-19 que vous connaissez tous. Quand j'ai écrit ce texte, je venais de passer une nuit atroce, la faute au corona. Ça m'a fait réfléchir à la notion de résilience, cette idée selon laquelle ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, comme disait Nietzsche. Cette vision de la vie, elle peut nous sauver dans les moments difficiles, mais elle me révolte aussi. C'est ce que je vais vous expliquer dans ce texte que j'ai appelé « Assigné à résilience ». Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un à la rédaction. J'ai ce fichu virus. Du moins, c'est ce que suppose la médecin. Quelle fashion victime, ironise un ami. Je souris, mais pour être honnête, je n'en mène pas large. J'ai beau savoir que je ne fais pas partie des fameuses populations à risque et que je m'en sortirai sans doute comme d'une vilaine grippe, sonnée mais valide, il n'empêche. La maladie m'impressionne. Ou, plus précisément, le branle-bas de combat interne qui l'accompagne. Cet état d'urgente effervescence de mon corps, dont je ne maîtrise ni ne comprends les rouages. L'attaque virale doit avoir été brutale, puisque la riposte fut massive. Nausées, vertiges, frissons, je ne rigole plus quand me prennent sueur et tremblement. « On vous surveille comme le lait sur le feu », me dit la médecin. Soit pour me rassurer, soit pour m'avertir, alors que je me sens bouillir. Dites-vous que si vous en sortez, vous serez immunisé, ajoute-t-elle pour m'encourager. C'est vrai, ça. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, renchérit ma mère, jugeant bon de convoquer son nietzschéisme populaire face à mon désarroi. Si rien ne m'agace plus que cet aphorisme du crépuscule des idoles cité à tout bout de champ, j'avoue que la métaphore guerrière me parle. Disons qu'elle m'aide à visualiser le processus. Au pic de la fièvre, j'imagine mes chairs et mes vaisseaux retourner tel un champ de bataille, comme dans ce dessin animé que les enfants de ma génération aimaient tant, « Il était une fois la vie », où de braves anticorps armés jusqu'aux dents combattaient sans relâche de vilains virus au rictus sanguinaire. Dans mon délire, les ordres sont hurlés par de bedonnants généraux, engoncés dans leur uniforme de globules blancs. « Déclenchez la pompe à vidange et montez-moi cette température jusqu'à ce que l'ennemi suffoque. Allez, et que ça chauffe. Vous n'êtes pas là pour lambiner. » À l'heure où je vous écris, le premier affrontement s'est conclu à mon avantage. Les troupes se reposent, mais je ne fais pas la maline. Il paraît qu'avec le Covid-19, ce sont les montagnes russes. Un jour ça va, le lendemain ça repart. Ce n'est donc qu'une bataille de gagner. Et quoi qu'en disent les Nietzschéens du dimanche, une maladie, ça ne laisse pas toujours indemne. Au fond, je n'y crois pas, à cette idéologie du renforcement par le choc qu'on nous martèle. Je la trouve même dangereuse. Je dirais que c'est l'un des effets secondaires les plus vicieux de cette pandémie, le grand retour en grâce de la résilience. Popularisée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, cette notion, qui désignait à l'origine la propriété d'un métal pouvant retrouver sa forme initiale après un choc, décrit aujourd'hui la capacité de rebond d'un individu après un traumatisme. Pas étonnant qu'Emmanuel Macron ait baptisé ainsi son opération « Résilience ». En convoquant les militaires sur le front de la lutte anti-épidémique, il espère sans doute voir le corps politique sortir non pas affaibli, mais renforcé de la lutte contre le virus. Dans ma famille, on y croit, à la résilience. Sans doute parce qu'à ma naissance, j'ai survécu au pire. Mon cœur et ma respiration s'étant arrêtés, on crut me perdre. Cela me vaudra un surnom à la maternité, la mort apparente. Par la suite, ma mère ne cessera d'évoquer ce drame pour expliquer le supposé génie de sa progéniture qui serait sorti renforcé de cette épreuve initiatique. Quels que furent mes exploits, première compote avalée sans encombre, dictée réussie, signature de CDI, elle ne manqua jamais de rappeler l'étonnante plasticité cérébrale dont fit preuve la rescapée que je suis en lâchant invariablement la même phrase « Et quand je pense que ton cerveau n'était pas irrigué ?» Pour ma part, je peine à me satisfaire de cette interprétation. Si je réchappais à la mort et m'en sortis sans séquelles, c'est parce que la maternité dans laquelle j'ai eu la chance de naître était dotée de moyens de réanimation conséquents et d'un personnel en nombre suffisant. L'hôpital public n'était pas encore passé par la thérapie de choc que lui imposèrent les idéologues du New Public Management, ni les coupes budgétaires qui achevèrent de fragiliser sa structure. En appliquant les recettes de gestionnaire, l'État croyait alors dynamiser un mammouth qu'il jugeait nanti et paresseux. D'où l'idée de rationaliser le moindre geste médical. Adieu l'accompagnement des soins, bienvenue à la tarification à l'acte. Aujourd'hui, le privé connaît les dérives de l'évaluation à tout crin et s'éloigne de ce taylorisme suranné. Ce qui nous laisse face à ce paradoxe d'un service public qui persiste à appliquer aveuglément des méthodes entre-temps ringardisées dans le monde de l'entreprise dont elles sont pourtant issues. L'épidémie révélera-t-elle les ressources insoupçonnées d'un système à bout de force? Rien n'est moins sûr. Car la résilience ne s'improvise pas. Pour qu'un enfant se remette d'un choc traumatique, il doit avoir été élevé dans la confiance et la sécurité, dit Cyrulnik. Vous avez dit confiance ? Inutile d'avoir suivi en détail le délitement du dialogue social avec les personnels soignants pour mesurer à quel point ils se méfient du gouvernement. Face au Covid-19, on aimerait que l'hôpital se montre antifragile, selon la formule du statisticien Nassim Nicolas Taleb. Qu'il se bonifie avec le choc, au lieu de se briser de toutes pièces. Ce serait oublier qu'il n'y a rien de pire que la bureaucratisation pour fragiliser une structure, comme le rappelle Taleb. Enfin, au-delà des hommes, il y a les faits. Sans lit, ni masque, nous sommes nus. Tout simplement fragiles. L'hôpital se relèvera-t-il de cette énième épreuve? Peut-être. Les plus faibles parmi les malades, non.
Message suivant, reçu hier à 22h23.
J'ai mangé des pâtes, du riz et des pâtes.
Pour rappeler, appuyez sur le carré.
Augustin, c'est quand tu veux. Augustin, il a une belle marinière. Putain! Putain, il a gagné. Il a gagné.
Reçu hier à 22h14.
Les légendes qui portent le vent. Comme le corona est porté par le vent.
Message suivant, reçu hier à 22h13.
Confinement intime, confinement intime, le podcast.
Reste chez toi, connard.
C'est un passage obligé pour se débarrasser au plus vite du coronavirus. À midi, la Belgique entrera dans une période de confinement de 18 jours. Nous allons vous rappeler tout ce que cela implique.
Ça se passe bien. On est à Wemel. On n'est pas vraiment des gens qui sortent beaucoup, donc ça ne change pas grand-chose. Non, mais Ce qui va me changer, c'est de ne pas aller faire des balades en forêt, de ne pas faire du sport, tout ça.
Dans 3 heures, donc, commencera pour chacun, chacune d'entre nous, une période difficile, mais dictée par l'urgence sanitaire, la nécessité de ne pas surcharger les hôpitaux pour leur permettre...
Journal de bord, jour 1, première journée de confinement. Bon, là, il est 10h20, je dois faire des courses. Mais j'arrive devant le supermarché, il y a une file d'à peu près 30 personnes devant qui ont chacun un mètre entre eux, qui respectent les distances de sécurité. Je ne sais pas si je vais arriver à trouver encore un citron, mais j'espère. Bon, j'espère que ça va aller, que tout va bien aller. Je commence à voir quelques personnes avec des masques, des contaminés. J'espère qu'ils ne vont pas me toucher. Voilà. Journal de bord, 10h25. Au revoir.
Donc moi, avant midi, j'ai vite loué une cambio. Je me suis dit, oh, je vais aller chercher du matériel de peinture à mon atelier. Comme ça, j'aurai de quoi faire ici. Donc j'étais dans mon atelier, là, j'avais pas beaucoup de temps. Il fallait que je ramène la cambio à midi. Puis je suis là, je ramasse des affaires. Qu'est-ce que je vais apprendre ? Et puis tout d'un coup, y a un mec qui est dans mon atelier. Et vraiment, sorti de nulle part, genre... ouais, bonjour, quoi. Et en fait, le gars, je sais pas, il commence à me parler de l'atelier, qu'il aimerait bien, il a un ami peintre.
Il me tenait la jambe alors que je lui disais que j'avais pas beaucoup de temps. Je lui ai juste dit que voilà, que je peux le recontacter dans 3 semaines, quoi, qu'on voit où on en est.
Et puis voilà, il partait pas, donc j'ai un peu insisté. Et puis en partant, il me tend la main. Et putain, hein, ça m'a fait un choc. Mais je lui ai quand même serré la main, du coup. Et puis voilà, je me suis dit que vraiment le paye, il était sorti de nulle part. Il est reparti et puis j'ai pris mes affaires.
Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être affecté par le coronavirus ?
Journal de bord, il est 10h45, je viens de rentrer dans le supermarché. J'ai l'impression d'être parmi plein d'infectés. Certains sont très malades, les rayons sont vides, il n'y a plus rien, plus de PQ, plus de pâtes, je sais pas ce que je vais manger. Il y a un infecté qui s'approche, je rapproche, je raccroche. Journal de bord, je raccroche.
Mercredi 18 mars, 11h15, je suis dans la cour de mon jardin et c'est notre premier petit déj au soleil.
Ensuite, on va au magasin bio parce que je suis un peu snob et que j'aime bien bouffer bien et que je me suis dit qu'on allait prendre des trucs en stock avant le confinement. Et on va au magasin et là, dans le magasin, je me fais hurler dessus par une femme à la caisse qui me fait un mètre. Mais hyper désagréable, quoi. Genre, elle se prenait vraiment pour un flic.
On est en confinement depuis une demi-heure maintenant. Et voilà, après 4 jours de lockdown, maintenant on ne peut plus sortir. Enfin, je ne sais plus exactement les règles exactes. On peut sortir, oui, pour des choses nécessaires et urgentes. Donc faire des courses, de la nourriture, quoi.
Alors voilà, on est aujourd'hui mercredi 18 mars et c'est donc le premier jour du confinement total. Je voulais juste dire que c'est très angoissant parce que j'ai une petite fille de presque 6 ans qui tousse depuis 2 jours ou 3 jours et qui fait de la fièvre depuis ce soir. Donc forcément, c'est la grosse angoisse. Et je me pose 1000 questions, une angoisse qui est légitime ou pas, j'en sais rien. Parce que les infos qu'on a, c'est tout et son contraire. Et voilà. Alors, les compensations sont d'ordre addictif, comme boire du vin, fumer des cigarettes, fumer des joints. C'est très mauvais. Mais ça permet de tenir le coup, j'ai l'impression. Suite au prochain épisode, j'espère que ça va aller.
Mercredi 18 mars, 14h30. Je suis dans ma cuisine avec Valentin et on se prépare pour aller courir. Je déteste courir, mais là j'en ai envie et il fait beau, il n'y a personne, pas de voiture et ça va être juste génial.
Sinon, moi je ne suis pas encore sortie depuis confinement. François, il est sorti pour sortir le chien. On a fait les réserves, donc on n'a pas fait des réserves de PQ et tout ça, hein, mais bon, on a fait des réserves, mais voilà. Bah moi, je fais du montage. François fait de la musique avant le confinement, donc la veille, le soir, j'ai été déposer tous mes fichiers audio de 10 ans d'archives pour qu'on les remasterise et que je les mette sur Bandcamp. Donc en fait, je fais un peu tout ce que j'ai jamais vraiment fait. Voilà, donc moi je suis pas trop triste du confinement, je suis juste triste de pas pouvoir sortir vraiment. Même nous avons la chance de pas vivre en France, notre gouvernement n'est pas, on va dire, une dictature. Voilà, une dictature, on va dire ça.
Le 18 mars 2020, en fait j'avais entendu que le confinement officiel était à midi. Donc je me suis réveillée assez tôt en me disant que j'allais aller me balader dans la ville avec l'envie de simplement m'imprégner de l'ambiance pré-confinement. Et j'étais partie sur l'idée de faire des photos de ce que je voyais. L'idée première, c'était surtout de photographier les gens. Mais finalement, j'ai pas senti de photographier les gens. Et donc, un peu comme ça, vraiment, c'était pas très réfléchi du tout. J'ai atterri à la cité administrative. J'ai eu envie, en fait, d'être dans ce lieu où il y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de nature, beaucoup de béton, beaucoup de bâtiments très hauts, très géométriques. Finalement, en fait, quand j'ai regardé les photos en rentrant chez moi, je trouvais que c'était un bon lien entre le premier confinement et cette ambiance un peu désertique. Et puis la cité administrative qui, quelque part aussi, a un côté désertique et très froid.
Mercredi 18 mars, 20h09. Je suis dans mon bureau. Je viens d'applaudir à la fenêtre pour remercier tout le corps de médecine qui sont mobilisés sur le terrain. C'était chouette, je suis toute émue encore. C'était chouette de voir aussi tous ces voisins que je n'avais jamais vus jusqu'auparavant. Et c'est peut-être ça aussi qui est émouvant. Voir des têtes à la fenêtre, voir les gens qui vivent là dans la même rue que moi, que je ne vois jamais, parce que ils font mille choses d'habitude.
Prenez soin de vous, mais aussi des autres.
Le ciel est très présent en fait dans mes photos, et donc peut-être que l'inconscient a parlé, et l'inconscient m'a dit de lever la tête.